Salut Étienne.
Salut Camille.
Bienvenue à tous sur cet épisode. Alors, vous faites partie de l'asso et vous allez peut-être intervenir en tant que bénévole dans les hôpitaux. Dans ce petit podcast, nous allons vous donner des clés pour la gestion émotionnelle pour que tout le monde passe un bon moment. Vous pourrez également prendre le temps de le réécouter avant votre prochaine intervention.
Tout d'abord, il faut que vous soyez conscient que dans la plupart des cas, le fait de proposer cet atelier aux enfants vont leur permettre plein de bonnes choses, comme ne plus se focaliser sur la douleur ou sur la maladie, d'avoir un meilleur contrôle de la douleur, de mieux gérer leur anxiété, et pendant ce moment, en fait, ils vont s'extraire de l'environnement hospitalier. En gros, tout le monde est là pour passer un bon moment, quoi.
Et du coup, pour vous coacher avant votre première intervention, on accueille Gaël, le médecin psychiatre de notre asso. Salut Gaël.
Oui, bonjour Étienne, bonjour Camille, bonjour à tous.
Salut. Bah écoute, alors si on commence dans l'ordre, qu'est-ce qu'on peut dire avant l'intervention ?
Alors avant l'intervention, il faut avoir vraiment deux sujets en tête. Le premier, c'est comment je vais gérer mon arrivée dans le service, le contact avec les enfants et puis tout le reste de l'animation. Et puis d'un autre côté, c'est toutes les précautions qu'il va falloir prendre pour que ça se passe dans des bonnes conditions.
D'accord. Et du coup, pour que ça se passe le mieux possible, quelle attitude tu nous conseilles d'avoir ?
Alors, les premières choses, c'est que ça va être vraiment guidé par l'équipe en place. Il y a au sein de l'unité des animatrices, des éducatrices, des infirmiers, des infirmières, enfin toute une équipe qui va être là pour nous accueillir et donc d'abord nous annoncer. Donc, on va arriver dans l'unité, on va se présenter auprès des enfants et l'idée, c'est de pouvoir engager un premier contact avec eux et puis accepter le refus parce qu'il faut avoir à l'esprit que ces enfants, ils sont là en soins, ils sont parfois fatigués, ils sont parfois nauséeux et donc parfois, ils refuseront, non pas qu'ils n'ont pas envie de notre présence, mais que ce n'est pas pour eux le bon moment et dans ce cas-là, il faut pouvoir vraiment leur proposer autre chose et puis aller vers les autres enfants, quitte à revenir vers celui qui a refusé initialement dans un second temps. Il y a un autre point qui est vraiment très très important dans notre position de bénévole dans une association, c'est de pouvoir considérer l'enfant qui est en soins, l'enfant hospitalisé, comme n'importe quel autre enfant. Ça les épuise au bout d'un moment et ça les use d'être entourés que de personnes qui vont leur parler de soins, qui vont leur parler d'hôpital. Et c'est vraiment bénéfique pour eux d'avoir quelqu'un qui va arriver et qui va le considérer comme n'importe quel autre enfant qui serait dans une autre situation. On en reparlera sûrement après, c'est toute l'importance d'un positionnement neutre qui n'est pas celui d'un soignant, qui n'est pas celui de la famille, qui n'est pas celui d'un ami. Mais en tant que bénévole d'une association, on va entrer en contact avec lui et le considérer comme s'il était dans un autre environnement.
D'accord. Bah justement, quand on préparait ce petit podcast, tu nous disais vraiment qu'il était important d'avoir ce positionnement neutre. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer ce point-là ? Parce que c'est vrai que ça nous intéresse.
Mais dans la relation qu'on va avoir avec les enfants, enfin, je vous dirais même dans les relations qu'on a avec les personnes qui nous entourent, on a différentes attitudes qu'on adopte, qu'on le fait spontanément, habituellement, qui vont aller de l'empathie, quand c'est quelqu'un qui est proche de nous, qui nous touche, ou bien dans ces situations plus neutre, l'empathie, c'est simplement la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions de l'autre. Ça n'implique absolument pas un engagement ou une affection particulière. Ça va être vraiment le rôle de la famille, le rôle des soignants éventuellement, et encore c'est assez discutable, mais de pouvoir avoir un rôle soit de compassion ou bien de sympathie. Et ça, c'est pas ce qu'on attend de nous. La compassion, c'est vraiment le rôle de l'entourage, de la famille, ce qu'on appelle la résonance affective, c'est-à-dire de ressentir même la douleur et puis la difficulté que peut avoir l'enfant de la même manière. Ça appartient à la famille et la sympathie également. Nous, notre position, c'est j'arrive, je viens t'apporter quelque chose pour te changer les idées. Je garde une distance par rapport à toi et je suis pas engagé effectivement. C'est-à-dire que je suis capable d'identifier que tu peux souffrir. Je suis capable d'identifier que tu es en difficulté. Pour autant, ça ne doit pas m'affecter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit le négliger et qu'on sera parfaitement insensible. Ça veut simplement dire que notre positionnement, il ne sera pas engagé effectivement. C'est un positionnement neutre. Et se distraire pour les enfants, c'est aussi, et peut-être même avant tout, être au contact de personnes qui offrent cette neutralité.
Ok, maintenant, après, on n'intervient pas dans une école, on n'intervient pas dans un centre aéré, donc il y a forcément des principes pour protéger les enfants et voire se protéger nous-mêmes, non ?
Alors oui, effectivement, il y a des précautions à prendre qui sont des précautions sanitaires. Comme tu le dis très bien, on n'intervient pas dans une école ou dans un centre aéré. Donc les enfants qui sont hospitalisés, ils ont certaines fragilités, certaines vulnérabilités qui sont liées essentiellement à leur statut immunologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leur défense immunitaire, eh bien, pour pouvoir vaincre certaines pathologies cancéreuses, eh bien, elles vont être fragilisées par les traitements médicamenteux, et donc les enfants sont plus vulnérables. Dans certaines situations, on va même leur proposer des cadres de soins particuliers. Il y en a trois essentiellement. Il y a ce qu'on appelle l'isolement septique. L'isolement septique, c'est le cas où l'enfant lui est contagieux pour les autres et ce qu'on ne veut pas, c'est disséminer. Donc il y a des mesures de barrière qu'on connaît bien maintenant et puis de lavage qu'il faudra respecter. Un autre type, c'est l'isolement protecteur. C'est pour les enfants qui sont en aplasie, ça veut dire qu'ils n'ont plus de défense immunitaire. Donc l'enfant, il est vulnérable. C'est-à-dire que le risque infectieux, il est pour lui. Et donc on va prendre des précautions renforcées pour pas nous, qui venons de l'extérieur, le contaminer lui. Et puis enfin, il y a le secteur hyper protégé pour les enfants qui sont en aplasie prolongée. Mais là, c'est vraiment des situations très spécifiques. Et dans ce cas-là, de toute façon, il y a un accord médical et puis on est accompagné par l'équipe soignante pour pouvoir prendre toutes les mesures. Donc là, il y a vraiment juste à se laisser guider. Plus globalement, dans ces trois situations-là, on se laissera guider par l'équipe soignante en place, infirmiers, infirmières et éducateurs, éducatrices qui nous guideront pour vraiment avoir les bons gestes. Donc ça, pas d'inquiétude de ce point de vue-là, d'autant que on a sur chaque site un responsable qui est bien au fait de ces mesures-là et qui pourra nous guider, auprès de qui on pourra se rapprocher. Dans tous les cas, dernier point, il faut vraiment respecter des règles d'hygiène de base, c'est-à-dire ne pas être malade au moment où on intervient, bien se laver les mains avant d'entrer dans le service, et puis d'être vacciné, c'est-à-dire que tous nos vaccins, les vaccins obligatoires, mais aussi en saison, les vaccins saisonniers comme celui de la grippe, doivent être faits pour protéger ces enfants des virus qui pourraient être pour eux vraiment dangereux.
Maintenant, pour simplifier et rassurer les intervenants, il faut quand même dire qu'il y a peu de risques pour un bénéfice qui est remarquable pour le patient et pour les intervenants.
Oui, en fait, finalement, c'est surtout une histoire de bon sens et de bien connaître le cadre dans lequel on intervient.
Alors ça fait aucun doute, hein, les bénéfices, maintenant l'association elle a bientôt 2 ans, on voit que les bénéfices sont vraiment pas négligeables pour les enfants et que les écueils ils sont quasi inexistants, sous peu qu'on puisse faire un minimum attention, prendre les mesures qu'on a pu évoquer en termes de précautions sanitaires, faire attention aux outils qu'on utilise. Avant tout, c'est extrêmement bénéfique pour l'enfant, à plusieurs titres, hein, le fait de, tu le disais au début, Étienne, de pouvoir le défocaliser, jouer sur l'anxiété, la douleur. Donc, c'est très bénéfique pour eux. Et pour nous comme pour eux, ça représente un risque qui est négligeable, particulièrement au regard de l'intérêt.
Ok, super. Bah, écoute, merci Gaëlle pour toutes ces précisions. Je pense que les nouveaux intervenants maintenant peuvent être un peu rassurés par rapport à tout ça. Puis, c'est toujours bien de pouvoir les réécouter aussi pour les anciens.
Et qu'ils n'hésitent pas aussi, évidemment, à poser des questions, à appeler avant les interventions, après les interventions. On est tous disponibles, et moi je le serai en tout cas pour pouvoir reprendre les difficultés que chacun a pu avoir. Donc vous n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone, pour qu'on puisse faire des retours sur vos expériences.
C'est noté. Merci beaucoup Gaëlle.
Et bien, merci à vous. Merci Étienne. Merci Camille.